Bienvenue sur C'est quand la pause, le podcast dans lequel trois potes analysent le monde de la formation pour vous accompagner dans vos réflexions, pratiques et projets d'innovation pédagogique.
Un lundi sur deux, nous vous proposons une heure de partage d'expérience en toute convivialité à écouter n'importe où et n'importe quand. Aux commandes, Jérôme, Nico et Lio.
Nous sommes tous les trois acteurs du monde de la formation et explorateurs du futur de l'apprentissage. Envie de nous suivre ? C'est le moment de prendre une pause pour y voir plus clair. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs et bienvenue, oui, dans ce déjà 31e épisode de C'est quand la pause. Donc après un an et demi d'existence, nous nous sommes enfin mis sur notre 31. Le sujet du jour, le podcast, dans le podcast comme vous avez vu, donc ce sera un épisode un peu style Inception, donc on va un peu réfléchir là-dedans. Mais avant de se lancer, on a évidemment nos deux acolytes, hein, puisque nous sommes un trio magique. Et donc, comme d'habitude, je vais vous les présenter. Et je commence par l'acolyte qui a récemment passé le cap d'une année supplémentaire. En effet, il a soufflé ses bougies ce 21 juin. Je ne dirai pas combien de bougies. Mais donc, chers auditeurs et chères auditrices, n'oubliez pas de noter cette date dans votre agenda pour les années futures et de pouvoir lui souhaiter. Mais donc ce 21 juin, cet acolyte est né le même jour qu'un certain Jean-Paul Sartre, à quelques années près. Et dommage qu'il arrive un peu après, parce que sinon il aurait pu lui-même aussi écrire « L'être ou le néanmoins » ou encore « La critique de la raison didactique ». Et dans un tout autre style, le 21 juin fête également Manu Chao ou Lana Del Rey, donc des œuvres artistiques bien plus contemporaines. Mais le 21 juin, en dehors du passage à l'été, Lionel, car oui, c'est bien de lui dont il s'agit, partage cette date à une icône d'une toute autre époque, un certain Jean-Pierre Madère. Et oui, le fameux interprète d'un tube intemporel Macumba. Et c'est assez incroyable, hein, et j'en profite donc pour vous révéler que le hasard n'en est pas toujours un. Cette chanson, hein, cet hymne, je dirais même, de Jean-Pierre Madère, Macumba, c'est la chanson préférée Lionel, sur laquelle les pistes de danse du monde entier, les oreilles de nombreux humains n'ont pas résisté. Donc Lionel, pour te souhaiter la bienvenue et rien que pour toi et pour tous nos auditrices et nos auditeurs, on va écouter un petit extrait de cet hymne qui te tient tout à cœur.
Merci beaucoup, ça me touche énormément. C'est vrai que je l'écoutais en boucle depuis que je suis tout petit, depuis que je connais, je sais qu'il est né cette même date, je n'écoute que ça. Donc ça me fait du bien de pouvoir le fredonner avec vous. Merci Jérôme.
Ah, je t'en prie. Et alors notre deuxième acolyte, gardez bien votre agenda sous la main et faites une grosse croix le 19 septembre. Ce jour-là, il aura un an de plus. Et pour l'aider à passer ce cap-là, et si vous n'avez pas d'idée de cadeau, hein, il a toute une série de livres qui trient par couleur, donc ça, ne le faites pas. Mais donc, on va mettre dans descriptif son numéro de compte en description de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à lui verser quelque chose parce qu'il part en vacances juste après. Et ça lui permettra de ne pas finir dévoré avec sa tante au milieu des ours. Et c'est surtout parce qu'on en a besoin de lui pour payer les factures de l'hébergement de notre website. Mais le 19 septembre a autre chose en commun avec Nicolas. Oui, c'est bien de lui dont il s'agit. En effet, en 1973, Charles XVI Gustave est couronné roi de Suède. Quelle coïncidence quand même, car Nico est... En fait, non, il n'y a aucun lien apparent. Par contre, autre lien, et non des moindres, est la naissance en 1922, le 19 septembre, d'Émile Zatopek. Ça vous dit peut-être quelque chose. Qui est-il ? Alors, quadruple médaillé olympique sur 5 et 10 km, c'est tout simplement le premier homme à faire moins de 29 minutes sur 10 000 mètres en 1954 à Cocorico Watermal Boisfort, donc un jet-pierre d'ici une des communes de Bruxelles. Alors, pour les non-connaisseurs, ça représente une vitesse de plus ou moins 21 km/h. Donc, Nico, en sachant que tu cours quotidiennement au moins 10 km et que le record du monde actuel est de 26 minutes, et le tien, si je m'en tiens à Strava, plus ou moins 46 minutes. Bouge-toi un peu les fesses et cours un peu plus vite. Merde. Hein. Salut Nico.
Salut Jérôme. Alors merci pour cette référence. Je ne suis pas sûr que je vais parvenir à un tel score. Surtout, si on analyse bien mon parcours sur Strava, c'est assez répétitif. Des rythmes qui sont similaires. Je fais très peu de fractionnés pour m'améliorer, etc. C'est vraiment, je cours pour le plaisir et pour me tenir en forme. Mais voilà, il y a peut-être là un objectif intéressant à atteindre et merci pour la présentation et cette présentation historique.
Ben voilà, comme ça on met un peu en contexte et vous pourrez aussi aller souhaiter un bon anniversaire aux gens qui sont nés le même jour que vous.
Oui, sauf que de mon côté, ils sont tous morts.
Mais tu peux leur rendre hommage quand même. Hein. Charles en 1720, ouais, mais je connais pas sa date, mais à mon avis, il doit plus être parmi nous. Mais bon, on y verra vérifier. Ou tu peux le souhaiter aux héritiers, peut-être, hein, en hommage. Soit, on diverge. Mais avant donc de rentrer dans cet épisode Inception, nos petites actus perso. Lionel, je te donne la parole pour démarrer.
C'est pas comme d'habitude, c'est-à-dire que ce sera pas une chouette petite découverte, un projet sur lequel je travaille, mais c'est quand même un sacré changement de vie. C'est que je vais changer de vie professionnelle, c'est-à-dire que j'ai fait le grand saut inversé. Il y a du monde qui se fatigue à être employé, qui ne rêve qu'à être freelance. Moi, j'ai pu être freelance pendant ces deux dernières années, grosso modo, et je fais le grand saut inversé, donc le salto arrière, si on veut, et je repasse employé, mais j'en suis très, très heureux, satisfait, ça me convient bien, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas tout comme nouvelle, donc il n'est pas juste question de statut, il est aussi question d'endroit et de collègues. Il se fait que le hasard des choses m'emmène... semi-hasard des choses, m'emmène chez Sephora également, où j'aurai une mission de laquelle je vous dirai un petit peu plus prochainement. Donc, c'est-à-dire que Jérôme deviendra, en plus d'un acolyte, un collègue au quotidien.
Ça sent le piston, ça, non ?
Quand Lionel parlait de hasard, alors oui, semi-hasard, mais je n'ai joué aucun rôle là-dedans, parce que sinon il serait pas venu déjà. J'aurais évidemment mis mon veto si on m'avait demandé mon avis, hein, quand même.
Pas pris le risque. Hein. Et donc, à la diffusion de cet épisode, ça fera une semaine que je serai entré dans mes nouvelles fonctions, et donc je ne peux pas encore vous en dire grand-chose maintenant, vu que ça commence dans quelques jours.
Et donc moi, peut-être que dans une semaine, je partirai de mes fonctions parce que j'aurai un nouveau collègue beaucoup trop perturbateur à mes côtés. Donc voilà. Une de mes actus, c'est effectivement que je vais avoir un nouveau collègue qui débute lundi et qui vient rejoindre l'aventure. Donc trêve de plaisanterie, bienvenue chez nous, Lio. Hein, on va faire plein de choses, chouettes choses ensemble.
En tout bien, tout honneur.
On va commencer en tant que collègue, on verra comment ça se finit. Hein, donc. voilà. Petite actu à part celle-là, évidemment, qui est une info croustillante. Cette semaine, il y a deux jours, suivi une journée sur, de manière assez étonnante, l'intelligence artificielle, puisque personne n'en parle. La RTBF, donc c'est la radio-télévision belge francophone, a organisé une journée d'échange sur le thème de l'intelligence artificielle en formation, pour un peu explorer quelles étaient les différentes pistes, défis et autres. Et donc, des acteurs de la formation de tous horizons, pour venir un peu voir quelles sont les craintes, les défis, les usages qui sont possibles. Donc, tout ce que tout le monde est en train d'un peu explorer. Mais c'était, je pense, intéressant de mettre les gens autour de la table et prendre un moment, parce que chacun fait un peu ça dans son coin ou le partage comme il peut. Mais il y avait toute une série de workshops, d'échanges, de co-construction. C'était assez intéressant. Et l'idée, c'était de créer aussi un peu cet écosystème. Hein. Alors, c'est peut-être un peu pompeux, mais c'est en tout cas cette relation-là et de créer un peu ce kick-off-là. Et donc, pas mal de choses intéressantes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de choses qui avancent et beaucoup de gens qui ont testé et qui utilisent déjà beaucoup de choses. Et il y avait notamment, en fait, c'était un fil rouge tout au long de la journée, tout ce qui était l'ingénierie du prompt, hein, comment faire passer un bon message. Et donc, il y avait pas mal de partages d'expériences sur comment le faire. Et je suis vraiment étonné de voir que par rapport à il y a un mois ou deux, hein, où même à ChatGPT, on lui disait « donne-moi ça », là, maintenant, il y a des vraies choses qui sont développées avec des vraies stratégies de prompt et vraiment l'utiliser comme un outil conversationnel et donc vraiment avoir une conversation. Et donc, au plus on lui en donne, au plus il nous en donnera. L'utiliser de cette manière-là, plus que comme un simple moteur de recherche style Google ou autre, où on lui pose une question, on attend directement une réponse. Là, on co-construit avec lui. Et donc, il y avait même une des participantes, hein, qui avait dit en fait un prompt, ça se dompte. Donc, c'était assez intéressant aussi. Et notamment au niveau des langues. Hein. Donc, en Belgique, on a les deux langues, donc français et néerlandais. Et donc, voilà, c'est un enjeu assez important. Et il y avait des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle pour les langues assez bluffantes et déjà bien implémenté et ancré pour créer des dialogues, pour même des profils de métiers avec certains niveaux, hein, les niveaux même européens, B1, B2, des générations évidemment d'exercices.
Et voilà. Et deux, trois petites choses que je partage avec vous, comme ça, de manière non structurée, mais qui sont revenues, que j'ai notées ici. Il y a un petit outil qui s'appelle GLASP, notamment en utilisation des langues, qui s'intègre dans Chrome, et donc c'est pour YouTube, et qui permet de créer un prompt automatique sur toutes les vidéos YouTube. Et donc ça peut être résumé en 5 points, ou ça peut être créer 5 questions en QCM sur base d'une vidéo. Et donc, en un clic directement, ça le fait. Donc, ça, c'est un petit truc qui est assez intéressant. Et dans les langues, il y avait un professeur de langue qui expliquait qu'il utilisait, par exemple, SpeechGen, qui permet de générer la voix. Et il nous a montré le résultat. C'est quand même assez dingue. Avant, on avait les voix très robotisées. On l'entendait tout de suite. Et là, c'est assez bluffant. Et quelqu'un d'autre, participant, expliquait... Un outil qui s'appelle Eleven Lab et qui permet d'enregistrer sa propre voix et après, avec l'intelligence artificielle, de modifier l'accent qu'on a en fonction de la langue. Donc, on utilise notre propre voix et on modifie l'accent pour qu'il soit le plus native possible en fonction de la langue, quoi. Donc, c'est quand même, il y a quand même des choses qui sont assez dingues. Donc voilà, il y avait une liste aussi de tous les défis, un peu toutes les craintes qu'il y avait aussi. Et alors, une bonne pratique, là, je vais plus. Moins sur le contenu, mais plus sur la forme. Quand on était accueillis, en fait, il y avait un long couloir pour arriver après à la salle de formation. Donc, on sortait de l'ascenseur ou on arrivait en haut des escaliers. Il y avait un très, très long couloir avant d'arriver à la salle où se passait l'événement. Et en fait, ils ont exploité ça en mettant toutes des affiches où on devait aller compléter par rapport aux différents défis, quelles étaient les opportunités qu'on voyait avec l'IA, les craintes, les pratiques qu'on avait, à quoi ça peut servir. Et donc, chacun pouvait compléter. Et donc, au début du couloir, ils nous disaient, en fait, le café est tout au fond. Et on sait qu'on est tous un peu attirés, surtout le matin à 8h30, par le premier café. Et ils nous ont dit, à travers ce couloir-là, il y avait une quinzaine d'affiches, mais si vous pouvez en compléter juste deux, et noter deux idées. Et en fait, je trouvais, ils ont su exploiter ce qui pouvait être une contrainte, un long couloir un peu austère, avec des posters, et noter juste deux, alors qu'il y avait 15 posters. Et donc, je pense que tout le monde a joué le jeu et ça a été réutilisé dès le début et donc pour entamer les débats. Donc voilà, bonne petite pratique, je pense, à vous partager également.
Là-dessus. Et est-ce qu'il y aura des ressources qu'on peut partager de cette journée-là publiquement à nos auditeurs et auditrices?
Ouais, il y a plein de ressources et je vous en mettrai un lien notamment qui reprend toute une série de ressources également, un Padlet notamment qui a été fait. Et donc voilà, et j'en profite pour remercier l'initiative aussi, donc RTBF, Forum et Boza, qui ont permis de mettre cette journée en place. Et donc voilà, je mettrai le lien avec toutes les références qui ont pu être produites tout au cours de la journée.
Super, alors moi je croyais que vous alliez me parler de votre programme estival, de tout ce que vous alliez faire cet été, donc j'étais un peu parti sur ce mode-là.
Mais moi je vais supporter l'IO déjà dans ces deux premiers mois d'été, donc ce sera déjà suffisamment intense comme ça.
En tout cas moi, de mon côté, l'été ce sera plutôt consacré au livre, livre dont je ne vous ai pas parlé depuis un petit moment, et même si je suis encore en pleine rédaction, et j'espère terminer la rédaction pour la fin de l'été, on entre aussi dans une phase assez critique, c'est le choix du titre et de la couverture. Alors j'ai une question pour vous, quel est le livre qui vous a le plus marqué dans le domaine non-fiction, pas littéraire, non-fiction, en termes de titre et de couverture? Ça peut être deux livres différents, évidemment. Et pendant que vous réfléchissez, j'invite aussi les auditrices et auditeurs à me partager leurs idées, soit par message via notre site, je lirai tous vos messages, ça tombera dans ma boîte mail, soit directement sur les réseaux sociaux, vous me contactez LinkedIn ou Twitter pour me partager des idées. Je suis vraiment dans une phase de mood board, d'inspiration. Je ferai des choix évidemment là-dessus, mais je suis preneur de toutes les pistes d'inspiration. Et donc là, je vous le propose à vous. Je commence par Jérôme.
Moi, pour le titre, et j'en avais fait une reco, je pense, il y a quelques épisodes, le titre était « Comment se faire des amis ?» Et je pense que c'est assez... le titre est déjà assez interpellant aussi, et qui rebute certains aussi, dit « Mais je ne vais pas lire un livre sur comment se faire des amis. » Et pour rappel, c'est un livre qui ne vous apprend pas à vous faire des amis, mais c'est plus la communication interpersonnelle, comment faire passer un message et autres, et que je vous recommande en plus de lire. Mais donc, moi, c'est ce titre-là, en tout cas, si on doit passer au niveau
titre. Et en termes de couverture, il y a quelque chose de graphique qui est à marquer.
Moi, j'aime bien les choses très, très épurées, en fait, très, très simples, okay. Je dirais. Donc, où il y a trop d'infos, trop d'images, en fait, on s'y perd un peu. Donc, moi, je suis plutôt attiré par des choses très minimalistes. Oui.
Parfait. Et pour toi, Lio?
J'étais en train de rechercher parce que je tombais plus sur le nom exact, justement, alors que pour moi, c'est le titre qui m'avait marqué. Mais c'était, j'ai retrouvé, c'était un bouquin de Régis Debray. C'était « Du bon usage des catastrophes ». Et c'est par là que j'ai découvert un peu la notion de catastrophisme, cette tendance à penser le pire, à avancer en pensant le pire. Et je ne m'attendais pas à cette question. C'est ce qui m'est venu assez rapidement, du bon usage des catastrophes. Parce que c'est un petit peu oxymorique. Comment est-ce qu'on peut en faire un bon usage alors qu'a priori, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas voir advenir. Et j'aime bien, ça interpelle dès le départ.
C'est un des ingrédients qui ressort pas mal. J'ai fait aussi un petit sondage dans la communauté du livre. Mmh. Et l'ingrédient, à la fois le titre qui interpelle, l'oxymore, etc., ça revient pas mal.
Et puis pour le grammairien aussi, bon usage, ça veut dire quelque chose. C'est quand même le bouquin de référence en matière de grammaire. Donc ça faisait pas mal d'éléments, un faisceau d'éléments qui font que ça avait gardé ma... attirer mon attention.
Ça reprend vraiment les deux dimensions, à la fois le côté le plus explicite possible ou le côté le plus percutant et challengeant mm-hmm. possible. Et pour la couverture, c'est pas le bon usage en tout cas. Enfin, quoique, ça
non,
reste...
non, mais et celui-là et le bouquin de Régis Debray non plus. Hein, c'est couverture un peu comme ce qu'aime Jérôme, quelque chose de très, très sobre et vraiment minimaliste. On voit le titre sur fond clair, titre en rouge sur fond clair. Donc c'est pas hyper original, mais c'est un bouquin de chez Gallimard. Je vois pas pour une couverture. Comme quoi, ça m'a moins marqué qu'un titre, apparemment. Et quand j'y réfléchis, on est toujours plus sur de la photo ou des trucs comme ça. Mais ce que j'aime bien, c'est la cohérence. Il y a des collections qui ont des cohérences dans tous les ouvrages qu'ils proposent. Enfin, peut-être que toutes les collections ont ça. Et c'était chez. J'ai en tête On lit. Je vais aller les voir en même temps que je parle, l'édition onlit.net. Et je trouve que c'est joli, c'est toujours... ouais, je suis dessus et je confirme ce que j'avais en souvenir. C'est assez typographique, donc c'est des grosses lettres, mais simples, pas toujours bien alignées, sur une photo qui occupe toute la couverture. Et ça, j'ai déjà vu plusieurs ouvrages passer sur les réseaux sociaux où je me suis déjà connecté sur le site de la maison d'édition. Et chaque fois, ça... Enfin, ça m'a déjà servi de modèle et inspiré pour quand moi-même j'ai dû participer à un projet. Voilà, donc l'édition On lit et ce qu'ils proposent dans leur catalogue.
Top.
Ouais, sur le bouquin, hors le titre et la couverture, mais la quatrième de couverture, je trouve aussi assez important parce qu'en premier lieu, on est évidemment attiré par le titre et une couverture. Mais allez, après, on le retourne, on voit la quatrième de couverture. Et c'est cette cohérence, parce que tu parlais de cohérence, Léo, entre tous ces éléments-là aussi, où je me dis, OK, là, ça me donne envie d'y aller. Et puis après, prochaine étape, on feuilletait un peu, on regarde la table des matières. Mais je dirais un peu, moi, dans mon cheminement, c'est effectivement titre couverture, puis quatrième de couverture. Et donc, voilà, mais je peux être vite rebuté. Enfin, je peux m'arrêter après, suite à la quatrième de couverture. Donc, je pense que c'est important aussi que la quatrième de couverture soit en cohérence avec le titre qui est donné.
Ouais, là, de ce point de vue-là, j'ai déjà envisagé, on sera sur un trois quarts de photo de moi et puis juste un
une
témoignage.
Une photo de moi, non ?
Non, juste un témoignage, c'est le livre le plus apprécié par les employés de Sephora ou par la majorité.
ça me paraît bien. Mais moi, je mettrais même ta photo en premier de couverture, enfin en couverture, quoi, directement.
En couverture, carrément.
Bah ouais. Mais je mettrai pas celle de Lio en tout cas, ça on est d'accord.
Oui,
mais
merci. C'est mon épisode, ok, merci. C'est, en termes de couverture et en termes d'aspect graphique, c'est quand même très différent pour ce qui est fictionnel et ce qui est non-fiction.
Ouais, ouais.
Parce que quand je parle de On lit, en fait, c'est une édition de fiction. Et quand je regarde encore à quoi ça ressemble, ça me semble mal s'appliquer à de la non-fiction. J'ai l'impression que là, c'est bizarre, mais c'est qu'une impression, c'est que la couverture doit être plus abstraite comme ça, alors qu'en fiction, elle peut être plus figurative, alors que c'est un peu paradoxal aussi.
Bah,
donc tu nous diras comment
ça avance là-dessus. Je vous tiendrai au courant du processus, et dans le processus, au cœur de l'été, il y a aussi mettre un coup d'accélérateur sur l'écriture, parce qu'en plus de repasser mon examen pratique du permis, faut applaudir le jeu de mots. Je vais programmer deux retraites d'écriture en juillet. Deux retraites à chaque fois d'une semaine. La première à Liège, où j'aurai l'occasion d'être dans un studio de musique. Je ne fais aucun instrument, donc il n'y a aucun problème. Mais au moins, j'ai cet espace-là pour aller m'immerger, qui est un espace en sous-sol d'un coworking assez connu à Liège. Et donc, je serai dans cet espace-là pour y travailler. Et puis, ça, c'est niveau 1 et enfermé, effectivement, niveau 1. Niveau 2, ce sera une semaine à l'abbaye d'Orval, si tout va bien. Abbaye où d'ailleurs les séjours se font complètement dans le silence. Donc là, j'espère une productivité au maximum pour terminer une première version du manuscrit au milieu de l'été et commencer à le relire pour ensuite l'envoyer à ma communauté de relecteurs et de relectrices avec un dépôt chez l'éditeur, si tout va bien, vers le début du mois d'octobre. On verra, mais en tout cas, c'est vraiment à fond sur le livre ces prochaines semaines.
Oui, et pour ceux qui seraient encore totalement ignorants par rapport à Orval, hein, qui est quand même une abbaye trapiste.
On mettra le lien dans la description.
Avec les plaisirs, voilà, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'ils ne parlent pas d'ailleurs, parce qu'ils ne savent pas boire, manger et parler en même temps. Donc ça promet. En tout cas, hâte d'avoir trouvé mon feedback, hein, Nico, de comment ça s'est...
Oui, et apparemment, c'est seulement si on fait un séjour qu'on a le droit de rentrer dans l'abbaye. Sinon, ce n'est pas un lieu public. Je connais assez mal l'abbaye, je dois l'avouer. Ah.
Ou alors c'est qu'une partie, parce que j'ai déjà été la visiter, mais peut-être une partie, c'est peut-être pas complètement. Mais je propose que Léo et moi, on vienne te faire une visite, mais on sera en silence, hein. On le fera en silence, mais on viendra faire une visite. On a pris un peu de temps pour discuter de nos actus, mais je pense que ça valait la peine, pas mal de choses à en retirer. Mais maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et ce qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, épisode un peu, comme je disais, Inception, donc la formation donc sans podcast. Et donc, un podcast pour parler de la formation sans podcast sur la formation. Vous ne me suivez pas, c'est pas grave, mais vous avez compris le principe quand même. Pour cadrer un peu l'épisode, de petites définitions aussi, parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations de ce qu'est finalement un podcast et qu'est-ce qu'on pourrait y voir derrière. Donc une définition communément partagée est celle en fait d'un contenu audio diffusé ou téléchargeable sur tout type d'appareil numérique avec des notions d'abonnement et de récurrence des émissions. Et je pense que c'est important cette dernière partie aussi, plutôt que d'avoir uniquement le contenu audio, hein, pur et dur, là la notion effectivement de récurrence d'émissions, d'abonnement, de série va aussi dans ce sens-là.
Oui, c'est d'ailleurs la définition de base. Je vois que tu ne l'as pas indiqué dans notre petite conduite, donc je me permets de la donner. Je ne sais pas, vous voyez d'où ça vient au moins le terme podcast. Vous vous souvenez pas ? Podcast, c'est la contraction de iPod et de broadcast, parce qu'à la base, c'est Apple qui a lancé ça, toujours. Et donc, qui a lancé sur iTunes cette section-là, à travers l'usage du flux RSS, de pouvoir broadcaster des contenus audio pour les mettre sur les fameux petits lecteurs MP3 de l'époque. Donc, c'est le terme podcast vient de là, la petite généalogie du terme.
Merci Jacques Mercier pour cette
référence très belge. Mais...
Oui, très belge, mais les plus curieux de nos amis français, canadiens ou autres iront justement googler pour voir. Et donc dans ces podcasts-là, on peut distinguer deux types différents. Les podcasts qu'on appelle natifs, hein, donc c'est-à-dire un contenu audio qui est mis spécifiquement et directement pour être un podcast et pour être mis sur Internet. Et alors les podcasts type replay, où là c'est plus des rediffusions de programmes de chaînes radio, de télévision existants ou des enregistrements après qui sont mis à disposition. Donc c'est deux types et on y reviendra aussi dans l'épisode. Alors quelques petits chiffres aussi sur le podcast pour se rendre compte un peu le monde dans lequel il évolue. Et donc c'est des chiffres qui sont issus d'une étude de Médiamétrie qui est sortie début 2023 sur des chiffres de 2022. On vous mettra évidemment la référence de cette analyse, cette étude là en description de l'épisode. Mais donc 4-5 chiffres et puis après Nico et Léo, je vous demanderai un peu de vous parler de votre pratique personnelle aussi, usage personnel des podcasts, au regard peut-être ces différents chiffres. Le premier, c'est par rapport au nombre d'auditeurs mondiaux de podcasts qui a augmenté en moins de 3 ans de 70 ou 70%. Et pour atteindre, selon les projections, en 2024, 505 millions donc, d'auditeurs de podcasts. Donc, en sachant combien on est sur Terre, c'est quand même assez dingue. Il existerait 2,4 millions de podcasts dans le monde. Et il y a à peine 3 ans, il n'y en avait que 600 000. Donc ça a quand même, selon Podcast Insight, ça a quand même bien augmenté. Et alors plus sur la France, si on se concentre sur la France, chaque mois, il y a 17,6 millions de Français qui écoutent des podcasts, hein, donc une augmentation de 17%. Et donc 17,6 millions sur les 66, 67, 68 millions qui sont, c'est 25% en tout cas. Et alors, sur les genres de podcasts qui sont écoutés, et ça m'intéressait particulièrement, en nombre de téléchargements, le premier, c'est tous les sujets concernant culture et société. Et en deuxième place, c'est tout ce qui est consacré aux sciences. Et le troisième, mais bien loin derrière, apparemment, c'est toutes les actualités. Donc, on a culture, société, sciences et actualités. Je suis assez étonné des sciences, je vous avoue, par rapport à ce classement-là aussi. Autant culture, société, actualité, je me dis sur un format podcast, ça peut, mais voilà.
Science, est-ce que les technologies ne sont pas considérées dans les sciences et techniques et peut-être que...
Oui, peut-être, à mon avis, c'est ce qui peut expliquer, mais voilà, j'étais quand même aussi étonné de ça aussi. Et alors, autre chiffre que je trouve assez intéressant, et on pourrait y revenir dans l'épisode, c'est par rapport à qui, quelle est la tranche d'âge qui écoute le plus les podcasts. Et on voit qu'il y a une répartition assez homogène, puisqu'il y a 23% des auditeurs qui ont entre 15 et 27 ans, 22% 28-40 ans et 27% 41-55. Donc c'est assez homogène aussi. Il n'y a pas une catégorie, une génération qui ressort, quoi. Sur base de ces chiffres et aussi pour un peu connaître votre pratique, vous, Nico et Lio, vous consommez comment, quel type de podcast, quand, à quelle fréquence? Nico, je te laisse démarrer.
Ouais, je pense que parmi nous trois, je suis celui qui consomme probablement le plus de podcasts. Enfin, on va en discuter. Et surtout, encore plus, à cette période où ma compagne est à l'étranger et que les podcasts vont vraiment m'accompagner dans la plupart de mes activités. Habituellement, en dehors de cette période un peu spéciale, je les écoute surtout en courant, sur mes trajets et parfois en travaillant. Et en moyenne, j'avais fait un peu une comptabilisation l'année passée. Je pense que je reste dans ces alentours-là. Je suis sur 15 à 20 heures d'écoute par semaine, parfois un peu plus. Donc, en termes de consommation de contenu, je crois que c'est parmi les contenus que je consomme le plus, à côté des livres qui représentent aussi une bonne partie du contenu que je consomme. J'ai vraiment aussi essayé de réduire tout ce qui était réseaux sociaux, articles, etc. Donc, en dessous, je dirais qu'il y a les newsletters que je sélectionne. Donc, voilà, c'est une consommation assez importante. Et je pourrais peut-être vous donner quelques podcasts à recommander par la suite. Mais voilà, ma consommation.
Oui, on te demandera évidemment tes podcasts préférés, ceux que tu peux recommander à nos auditrices et à nos auditeurs. Chez toi, Léo, tu es grand consommateur comme Nico ou un peu moins?
Non, plutôt beaucoup moins. Je crois que je dois être à l'autre extrême. Je ne suis pas trop consommateur parce que, en fait, j'arrive pas à... Je trouve ça vraiment super intéressant pour bon nombre de podcasts, mais j'arrive pas à superposer une écoute à une autre activité, sauf peut-être en conduisant ou en faisant la vaisselle. Mais du coup, le podcast me coûte du temps réel. Et j'arrive pas à intégrer ce temps réel, donc ce temps où je ne peux pas faire autre chose, qui occupe l'intégralité de son espace, j'arrive pas à faire autre chose que d'écouter, et je n'arrive pas à dégager du temps pour le podcast. Ou alors, c'est assez rare. Ou alors, autre chose, et ça en vient à influer sur ma pratique d'écoute et sur le format, il faut que ce soit concis et dans la forme ou dans les idées. Donc il faut que ce soit que je puisse prendre des pièces assez rapidement, et j'écoute plutôt des briefs d'actu que des podcasts comme le nôtre, en fait. Et un point qui me frustre aussi, comme je trouve ça super intéressant, les podcasts, et on en reparlera peut-être après, je pense que ce sera le cas, mais c'est le fait de ne pas pouvoir en retirer ce que je voudrais en retirer. J'arrive pas à prendre des notes. C'est, quand j'écoute, j'ai envie de... Ou quand je conduis en même temps, j'arrive pas, par exemple, à mettre à faire une capture d'écran sur le moment où je fais pas un mémo vocal, et du coup, je perds, j'écoute, et puis ça fouille. Donc, ça génère de la frustration. Il y a des outils qui existent pour annoter des podcasts, mais c'est surtout pour l'anglais. Et donc, au final, je consomme assez peu, et je pense que j'ai tort, et je vais essayer de réintégrer ça dans ma pratique, mais c'est pas facile, parce que ça demande une attention, beaucoup d'attention, je trouve.
Cours un peu plus. Cours un peu
ouais,
plus.
Oui, c'est ça.
Mais il court après le temps. Il court après le temps, mais malheureusement.
J'aime pas suer avec des trucs dans les oreilles.
Mais voilà, on sera tôt. Hein. Donc,
voilà. Cours en salle de sport où il y a de l'air conditionné.
C'est voilà. Ou arrête de transpirer en courant. Hein. Je veux dire, hein, il faut un peu.
Ou alors un petit haut-parleur.
Ça peut aussi le faire. Ça peut aussi. Non, mais je pense qu'il y a des éléments assez intéressants dans ce que vous dites aussi sur pouvoir s'octroyer le temps, quel est le type de contenu qui est donné. Enfin, on y reviendra aussi. Il y a différents éléments. Je ne suis pas un... Bon, après, c'est difficile d'être aussi grand consommateur que toi, Nico, hein, par rapport au podcast, 15-20 heures de podcast par semaine. C'est chaud. Moi, je dirais, je suis plus à peut-être aller, ça dépend de ce que j'écoute, mais 2, 3, 4 heures par semaine où j'essaye principalement soit en voiture ou dans mes trajets. Pas à vélo, parce que je trouve ça un peu... Je me déplace quand même pas mal à vélo quotidiennement, mais je trouve ça un peu dangereux d'écouter quelque chose à vélo. Donc, c'est plus en voiture, dans les transports en commun, ou même chez moi le soir. Et dans ma pratique, j'essaie de cibler aussi des podcasts où il n'y a rien à noter, justement, parce que ça rejoint ce que tu disais, Léo. Au début, j'écoutais des podcasts très orientés, voilà, contenu. Et j'ai aussi envie, un réflexe de, ok, mais noter ou structurer les choses. Et en fait, là, je me rends compte que c'est assez compliqué parce que le podcast, j'aime bien le consommer en faisant autre chose aussi. Et on y reviendra plus tard aussi avec un chiffre là-dessus. Donc, plus sur des... J'aime bien le format un peu interview, témoignage, en fait. Où, oui, on peut aussi... Vous allez me dire, on peut aussi noter des choses quand il y a des interviews ou autre. Mais c'est plus, ok, on voit un peu la vie des gens, on s'inspire, voilà, comme on lirait un peu un bouquin ou un roman. Et donc ça, c'est vraiment comment moi j'aime bien le consommer, plus pour l'impression d'assister à une conversation, en fait, et sur un sujet qui peut m'intéresser ou pas du tout. Mais donc ça, c'est plus le type de podcast et comment j'arrive du coup plus facilement à l'intégrer dans ma pratique.
C'est vrai que, vu que tu dis ça, je remarque que j'ai en fait une pratique similaire dans les contenus que j'écoute. Et en fait, ces contenus-là, je ne vais pas noter directement des références. Parfois, je fais effectivement des captures d'écran, mais c'est plutôt être inspiré. Et souvent, je vais prendre 5 minutes. Donc, j'en écoute en allant courir, en revenant de mon run, prendre 5 minutes pour reprendre les idées qui sont ressorties. Et donc ça, j'arrive à les garder. Je ne garde pas forcément les références qui sont citées, mais les idées que ça a générées, parfois sur des projets, je me dis, ah ben tiens, il faudrait que je propose ceci là-dessus, ou tiens, dans tel projet, je pourrais faire ça. À ça, je vais prendre une série de notes dans un petit carnet. Et voilà, donc c'est plus de la génération d'idées que vouloir capitaliser sur le contenu en tant que tel qui est partagé. Donc c'est peut-être dans la sélection des podcasts, je n'y ai pas fait attention.
Et en préparant ici un peu l'épisode, j'ai lu pas mal de choses et certaines enquêtes et autres. Et ce qui ressort fort, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui consomment en premier lieu un podcast pour se divertir. Et en fait, moi, j'avais un peu le réflexe de dire, je vais écouter un podcast pour apprendre des choses, comme je veux lire un bouquin pour apprendre des choses. J'ai un peu toujours ce mauvais réflexe, enfin, ou ce réflexe-là. Je sais pas s'il est bon ou il est mauvais, mais en tout cas, il est comme ça. Mais de dire, non, en fait, lis un bouquin ou écoute un podcast juste par plaisir, par divertissement, et pas toujours pour vouloir absolument apprendre, capitaliser, transférer les choses dans ta pratique. Et donc, parce qu'à un moment, j'arrivais pas à suivre, évidemment, et un podcast, c'était compliqué. Donc là, je me suis dit, prends juste ce qu'il faut pour se divertir. Avant, j'écoutais plus des podcasts uniquement sur la formation ou des choses que je peux transférer dans ma pratique professionnelle. Et maintenant, j'écoute des podcasts, des fois, sur des sujets où je ne connais absolument rien, juste pour découvrir, ou un témoignage d'une personne qui n'est pas du tout de mon domaine. Mais voilà.
Problème de la rentabilité, je trouve, dans la société, et c'est au sens très large et un peu bidon, mais on a tendance à se dire que le temps, il faut le rentabiliser, et comme ça nous prend du temps d'écouter un podcast, il faut que ce soit rentable, le savoir est rentable, le divertissement n'est pas perçu comme rentable, alors qu'à mon avis, il fait au moins autant de bien à la santé que le savoir.
Peut-être pour conclure sur vos pratiques, on en parlait tantôt, un ou deux podcast à recommander que vous aimez bien, que vous avez entendu, que voilà.
Ouais. Ça fait le lien avec la pratique que je disais. Un podcast que j'écoute encore régulièrement, il dure une quinzaine de minutes, mais il est quotidien. C'est le brief du journal L'Écho. C'est assez généraliste et à partir de 7h du matin, il y a 7 points d'actualité qui sont dits chacun pendant 2 ou 3 minutes. Et c'est pas mal. J'aime bien le côté on parle d'aujourd'hui. Enfin, hier, en l'occurrence. C'est bref et c'est des petits points, vu qu'il y en a 7 en chacun de 2 minutes, donc c'est cool. En format long, par contre, c'est plutôt chez France Culture, mais là, il faut s'asseoir, se mettre dans le noir avec une petite lampe de bureau et un bic et une feuille blanche. Et j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais c'est les séries, les podcasts Être et Savoir, où c'est une heure par semaine qui est liée, pourtant ça me semble accessible, hein, ça. Une heure par semaine liée au domaine de l'éducation et de la transmission de savoir. Et Le Meilleur des Mondes aussi, où c'est aussi hebdomadaire. Et on met le futur en débat et on questionne les nouvelles technologies qui reconfigurent nos sociétés, ce genre de choses-là. Et dans un autre format, et j'en ai plus des masses, mais c'est en format vidéo, est-ce que c'est un podcast ou pas? Je pense qu'on va en parler aussi. C'est des vidéos régulières, des émissions peut-être, du coup peut-être pas des podcasts, d'Arte, où sur YouTube on a les dessous des images. Donc c'est assez, je trouve ça assez, ça prend des images, donc une photo, une image qui nous a marqué, et ça la détricote vraiment complètement en une trentaine de minutes, tant sur des aspects artistiques que sur des aspects technologiques, et c'est vachement intéressant. Et enfin, j'écoute aussi des histoires, des témoignages, comme vous disiez, et je pensais au podcast comme La Poudre, ou au podcast de Louis Média, qui en édite tout un tas, qui sont chouettes aussi. Voilà. Donc en fait, il y a pas mal de consommation, mais je ne sais pas si on peut tout ranger sous l'appellation de podcast, et ce n'est pas une consommation très régulière, quoi.
On mettra évidemment tous les liens dans la description de l'épisode, hein, comme ça vous ne devez pas prendre note en même temps ici, ou de mettre sur pause et réécouter, ou autre, on mettra tout ça en description de l'épisode. Nico, ton top des podcasts à recommander ?
Oui, ben je vais faire un peu le même découpage que Lio, et effectivement, enfin, en vous écoutant et en réfléchissant en même temps,
c'est,
je remarque que j'ai,
hein.
Oui, j'ai des podcasts qui sont liés à certains moments de la journée. Donc effectivement, le matin, je commence toujours par le brief, effectivement, et aussi par les actus du jour d'Hugo Décrypte, pour avoir la version un peu française et qui me semble un peu dans la même vibe. Là, c'est sur 10 minutes et on a les actus, donc je me base là-dessus pour démarrer la journée. Pendant que je cours, on est plutôt sur des podcasts d'interview, des podcasts assez longs. Je vous en partage parfois, et à chaque fois, vous me dites « Ah, 3 heures !» Et donc, dans les podcasts d'interview que j'adore, je vous en donne 2. Il y a Génération 2 It Yourself, qui est l'un des plus importants podcasts français, qui va décortiquer les pratiques d'entrepreneurs, de sportifs, de politiques ou encore d'artistes. Et ce sont de longs entretiens. Donc là, on est entre 2 et 3 heures, parfois même un peu plus. Et deuxième podcast d'interview, c'est Vlan, qui interroge là des chercheurs, des anthropologues, des philosophes ou des journalistes sur, pour mieux comprendre un peu la société à travers le lien. Ça parle d'écologie, d'impact du numérique, des nouvelles relations, etc. Donc un podcast assez sociologique. Et puis, dès qu'on passe la matinée, je suis plutôt sur des podcasts soit d'humour, soit d'actualité tech. Et donc, dans l'humour, il y a le Floodcast, qui est un podcast animé par Florent Bernard et Adrien Méniel, qui est un podcast vraiment d'humour. Et là, impossible de l'écouter en courant, parce que sinon je rigole trop, et donc je
tombe.
je suis incapable de courir en écoutant ce podcast-là, donc
et parfois d'où l'expression mourir de rire, hein, du coup,
j'ai parfois des scènes assez bizarres où dans les transports en commun, je suis assis face à quelqu'un et je commence à rigoler parce que bref, ça c'est le premier. Le deuxième, on est plus sur des aspects tech, c'est le Rendez-vous Tech. Ou Niptech également, donc ça c'est, je vous en donne quand même 2, Rendez-vous Tech ou Niptech. Ce sont 2 podcasts qui suivent l'actualité technologique. Niptech est plus ou moins hebdomadaire, mais plutôt on va dire bimensuel. Rendez-vous Tech, c'est hebdomadaire, ça vous permet un peu de suivre toute l'actualité tech dans un podcast là d'une heure avec quelques chroniqueurs.
Et pour toi qui écoutes justement des podcasts assez longs, tu disais parfois 3 heures, parfois 2, j'ai entendu une pratique que j'ai jamais pratiquée moi-même, c'est de l'écoute plus rapide. C'est quelque chose que tu fais, ça ? Donc tu mets ton podcast en 1,25 ou en 1,50 parce que la parole, on peut l'assimiler un peu plus rapide.
Non, c'est très rare. J'ai vraiment une difficulté, presque une aversion à ça. Je le fais rien à voir, mais plutôt pour des vidéos tutoriels, etc. Mais par contre, pour les podcasts, notamment les entretiens, vu que je suis en train de courir, etc., ça, c'est pas mal dans
c'est
mon
flow. C'est le bon rythme, quoi.
Oui, c'est peut-être pour ça que je suis aussi lent. Hein. On va l'expliquer comme ça.
Et j'allais le dire, en fait, peut-être que tu le mets en 0,5. C'est peut-être ça, le truc.
Et je sais que c'est pas le sujet, mais par contre...
On ne retrouvera pas dans ce débat-là. Au point où on en est.
Ouais, voilà. C'est que je suis incapable d'écouter des livres audio. Donc, voilà. Oui. Et ça fait à nouveau peut-être référence à ce dont tu parlais. Il y a trop de contenu. Et donc, les livres audio, j'ai beaucoup plus de difficultés à rentrer dedans, à vouloir en ressortir des choses, etc. Donc, j'ai essayé. Je n'ai pas réussi. Et toi, Jérôme, t'es reco.
Mais quelques recos qui sont de genres totalement différents. En faisant la liste de ce que j'écoutais, je me suis rendu compte de ça aussi. Y en a un qui s'appelle, mais ils ne font plus. Je pense que le dernier épisode était même 2020 ou 2021, mais il y en a quand même toute une série avant, et donc je les écoute et certains même je les réécoute. Il s'appelle Le Meilleur Podcast, et donc en fait ils font des épisodes sur quel est le meilleur film, le meilleur sportif, et donc il y a un peu un débat, chacun arrive avec son idée. Et je trouve ça cool parce qu'on peut écouter de manière fun et on a tous un peu notre avis aussi, donc se mêler un peu aux arguments des uns et des autres. Donc, je trouve ça assez, assez sympa aussi. Et dans un tout à fait autre genre, et qui est à la limite presque avec le livre audio, c'est un podcast qui s'appelle L'Employé. Et donc, c'est en fait une personne qui est employée, mais donc d'une agence de renseignement. Et donc, chaque épisode est un peu un interrogatoire qu'il aurait avec un suspect. Et donc, tout ça en format audio. Donc, c'est un peu sous format thriller. Donc, c'est assez... C'est assez prenant, et là le jeu de voix est quand même assez, enfin d'acteur purement de manière audio est assez dingue. Donc si vous êtes amateur un peu d'enquête policière, thriller ou autre sous format audio, c'est des épisodes, je pense chaque fois c'est un interrogatoire, mais donc je pense ça prend un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est assez sympa aussi.
Et là c'est vraiment de la fiction.
C'est vraiment la fiction, quoi. Mais c'est assez puissant. Je m'attendais pas à être autant immergé dans un format uniquement... audio aussi. Et alors, dans un tout à fait autre style qui est plus là, à ce moment-là, vous savez que je suis assez fan de tout ce qui est sport et autres. Et donc, c'est la RTB qui fait un petit podcast sur, enfin, un petit qui fait un podcast sur le cyclisme, en fait. Et on connaît nos classiques où ils débriefent certains événements et certaines courses cyclistes. Et voilà, moi, j'adore suivre ça. J'ai aucune honte à avouer que je pourrais regarder toutes les étapes du Tour de France en intégrale pendant 6 heures ou 7 heures. Je suis assez intéressé par le sujet. Donc voilà, je les écoute. Et je trouve que plutôt que lire un article ou un résumé ou une émission, en fait, que j'arrivais pas à faire, ben, avec ce format-là, ça me permet de faire autre chose en même temps et d'écouter un peu ces débriefs-là aussi. Donc voilà, différentes... pratique, ce que j'écoute le plus régulièrement et peut-être reco pour certaines personnes que ça intéresserait. Maintenant, on va aborder vraiment le podcast comme outil ou comme matériel pédagogique, en tout cas en formation, dans la réalité, à des fins d'apprentissage. Et donc, première question, c'est comment est-ce que vous, en tant que... acteur de la formation, de l'apprentissage, vous utilisez ce podcast vraiment comme matériel pédagogique. Comment est-ce que vous l'exploitez? Avec peut-être une question un peu plus précise pour démarrer. À quel moment, quand, au niveau de la scénarisation pédagogique, vous utilisez ce podcast, Nico?
Alors pour commencer, je voulais faire une petite distinction qui me semble importante, une distinction qu'on a déjà utilisée dans des épisodes précédents et notamment dans le dernier épisode, c'est distinguer formation formelle et formation informelle, parce que ça me semble vraiment essentiel ici, du moins par rapport à mes propres pratiques. Pour rappel, ce qu'on va appeler ici formation formelle, c'est tous les parcours de formation qui vont être proposés à des participants, que ce soit en présentiel ou en ligne. La formation informelle, ça va plutôt être tout ce qui est auto-apprentissage, le fait que des apprenants apprennent via potentiellement des podcasts, via des vidéos en ligne, via des conférences, etc. Et donc, je crois très peu à l'efficacité du podcast en formation formelle. Je m'avance déjà sur la question de conclusion peut-être, mais surtout à cause du problème lié aux pratiques personnelles, du multitâche dont on a parlé. C'est que, d'une part, le podcast est un média, si on veut l'utiliser vraiment en formation, c'est un média qui demande une concentration, alors que c'est un média qui se lie souvent avec le multitâche, parce qu'on va faire des choses en même temps qu'on écoute le podcast, parce qu'en fait, on est juste sur un canal qui est le canal auditif, et en fait, c'est très difficile de ne pas faire autre chose. Donc, je trouve qu'en formation formelle, ça engendre certaines difficultés. Par contre, pour de la formation informelle, c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser beaucoup, et donc là, ça me permet de répondre à la question. C'est lorsqu'on va me demander des ressources sur certaines thématiques, que ce soit dans la pédagogie ou dans différents autres domaines, c'est quelque chose que je vais conseiller. Et donc, il n'y a pas forcément de scénarisation, c'est vraiment une ressource à part entière de formation que je vais mobiliser. Assez récemment, on m'a demandé, mais tiens, comment est-ce que tu gères ton temps? Comment est-ce que tu améliores un peu ta productivité, surtout en termes de gestion du temps? J'ai répondu avec quelques-unes de mes pratiques, mais surtout, j'ai partagé deux podcasts qui me semblaient intéressants, qui sont des podcasts assez courts, qui travaillent à travers différents épisodes, les notions de gestion du temps, les outils à mettre en place, les bonnes pratiques à différents moments liés à différentes activités, etc. Et donc, c'est vraiment un matériau tel que j'utilise pour amener d'autres à se développer, quelque chose que j'utilise moins en formation formelle, parfois plus pour donner des ressources complémentaires, mais je pense qu'on y reviendra. Donc voilà, une utilisation en tant que ressource importante dans la formation informelle, beaucoup moins dans la formation formelle.
Oui, donc plus informelle, effectivement, l'aspect complémentaire, où tu réutilises des podcasts qui existent déjà,
ouais.
Et de manière un peu peut-être réactive aussi, sur base des questions ou de l'adaptation que tu aurais en cours de trajet de formation. Quoi,
si on peut, oui, parce que ce sont des matériaux, un peu comme des livres, hein, à nouveau, mais des ressources qui me semblent intéressantes à être consultées. Ça pourrait faire le parallèle. Est-ce qu'on utilise des livres en tant que tels en formation? Non, on va peut-être prendre un extrait, et sinon on va plutôt utiliser dans le milieu scolaire des manuels scolaires, donc des livres qui sont réellement pensés pour être des ouvrages pédagogiques et des ouvrages d'apprentissage. Ici, le podcast, il n'est pas pensé pour ça, et donc c'est pour ça qu'à mon sens, dans la formation formelle, c'est plus difficile.
Ok. Ton côté, Léo, autre chose, autre pratique, autre utilisation, autre vision des choses?
C'est assez catégorique et finalement pas si éloigné. C'est, en fait, non. J'utilise assez peu... je ne vois pas d'exemple de dispositif dans lequel je me suis dit, tiens, ici, ce podcast, il va participer il va intégrer le dispositif et il va participer à rencontrer telle ou telle compétence qu'on aurait bien développée ou tel objectif. Du coup, et c'est un peu comme ce que Nico disait, en tout cas en contexte formel, c'est de la ressource complémentaire. C'est, en fait, voilà, vous avez fait tout votre parcours, vous êtes censé avoir atteint les objectifs qu'on avait fixés. Maintenant, si le sujet vous a intéressé ou si vous voulez aller plus loin, il y a tel et tel podcast que je peux vous recommander pour les avoir déjà écoutés. Donc, non, en fait, c'est quelque chose qui est assez difficile à intégrer. Je ne sais pas si je le comparerais... je comprends la comparaison au livre. Hein, c'est peut-être un grain trop épais pour qu'on en fasse quelque chose. Et en même temps, ce qui est différent du livre, c'est que c'est le côté sériel dont on parlait au départ. Ce serait qu'un chapitre de livre, vu que c'est une série, mais en même temps, c'est chaque fois une thématique précise. Donc, c'est compliqué, c'est un objet un peu hybride, mais j'arrive pas trop à l'intégrer. Et pourtant, et ça me contredit un petit peu, il y a des podcasts, et on en a cité certains, qui sont courts. Il y a moyen d'avoir des podcasts qui font 10-15 minutes, et c'est peut-être plus facile de les intégrer, mais non, voilà. Pour répondre à la question, non, je les utilise pas, et j'aurais du mal à le faire.
Pas mal de réactions là-dessus, parce que je pense que dans ma pratique et mes usages des podcasts, je vous rejoins sur pas mal de choses aussi. L'aspect complémentaire, plus inspirationnel, hein, on va dire, à côté de... mais du coup, est-ce que le podcast que vous utilisez en formation, il a un vrai objectif? Ou bien c'est sur le côté, il est là, vous prenez pas, mais vous le rattachez pas à un objectif pédagogique ou un objectif de formation?
En fait, quand je l'utilise en formation formelle avec un objectif, j'ai plutôt tendance à concevoir le podcast, voire à le repackager et donc à prendre un extrait et à utiliser cet extrait, mais peut-être ajouter ou faire ajouter à des concepteurs pédagogiques des consignes avant. Donc il y a tout un travail de réingénierie où le podcast en tant que tel est désossé. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Donc c'est finalement pas cette notion de podcast avec le système d'abonnement, etc., qui va être utilisé, mais beaucoup plus le contenu qui va être à l'intérieur. Et finalement, c'est parce que ce contenu est intéressant qu'il peut offrir un format d'écoute ou du de consommation qui est lui-même intéressant, que je l'utilise, mais limite, parfois, si ces podcasts-là étaient en vidéo, ce serait aussi très bien. Ce n'est pas parce que c'est un podcast avec abonnement que je les utilise.
Même l'épisode de podcast, je trouve que autant on peut suggérer un podcast, mais même intégrer un épisode, je trouve ça tout aussi compliqué en fait. Mais cela dit, quand je le fais, je m'approprie un peu la parole, désolé. Les objectifs que j'y trouve, c'est eux, pour le coup, ils sont assez nets. C'est vraiment le but d'entendre une autre voix, en fait, sur le sujet qu'on a abordé. Ça permet d'entendre une autre voix, peut-être de développer, faire développer l'esprit critique, entendre du débat sur une notion, de la discussion, de la contradiction. Et finalement, c'est pour ça, peut-être que c'est complémentaire, c'est pour approfondir grâce au regard d'experts. C'est pas toujours des experts. Dans notre cas, on peut se déclarer connaisseur, membre d'un milieu, praticien. Je sais pas si on peut dire de nous qu'on est expert. Je pense que oui, mais
on a de l'expérience en tout cas.
Voilà.
Je pense que c'est comme ça qu'on se présente sur le site en tout cas. Mais
tout à fait.
Allez, on est expert.
Sans prétention, sans toute humilité, on partage simplement une vision, une expérience, et voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça m'amène plein de questions et de réflexions, et ça fait aussi déjà peut-être le lien vers la deuxième partie. On l'était plus sur nos usages pour comment est-ce qu'on l'intègre dans une scénarisation pédagogique, mais peut-être quelque chose qu'on utilise ou qu'on, et je pense que c'est un peu le cas ici, qu'on réutilise en tout cas quelque chose qui est existant, mais aussi sur la conception de podcast aussi. On a un peu évoqué, on dit, alors peut-être, toi tu parlais Nico, tu dis, peut-être qu'à ce moment-là je vais le créer moi-même, ce podcast-là aussi, si je veux vraiment en faire une ressource ou un matériel ou un outil, une activité pédagogique au sein de mon... au sein de ma scénarisation. Est-ce que ça, tu l'as déjà fait? Et si oui, comment tu t'es pris pour vraiment concevoir ce podcast comme vraie ressource de formation?
Alors, le comment, c'est à voir si c'est de la technique et sur ce que j'ai fait d'abord. Et d'ailleurs, je vais peut-être balancer des coulisses qu'on n'a pas envie de balancer, mais passons. Je ne vais pas en dire trop sur le contexte, mais dans une certaine formation, on avait envie d'avoir des témoignages en quelque sorte de terrain sur des vécus particulièrement difficiles et que ces témoignages accompagnent et illustrent un peu chaque moment de la formation. On amenait les participants et participantes à prendre des notes et à interagir par rapport à ces témoignages. Et en fait, ces témoignages ont été complètement préécrits. Ce ne sont pas des vrais témoignages, ça se base parfois sur du vécu réel. Et donc là, ce sont des personnes qu'on allait chercher qui ont réaliser ces témoignages audio. Et donc, il y a une notion de récurrence parce qu'ils reviennent à chaque chapitre. On demande plus ou moins toujours les mêmes activités aux apprenants et apprenantes par rapport à ces témoignages. Ils illustrent les chapitres. Ils permettent aussi parfois de mettre des concepts qui ont été proposés en tension, d'essayer de faire du lien entre théorie et pratique, etc. Mais par contre, ces podcasts-là, on n'est pas allé chercher de réels témoignages. On a plutôt construit des témoignages et on les a illustrés par de l'audio. Et là, on a choisi l'audio parce que ça permettait de faire varier le média, que ça nous imposait aussi moins de contraintes de production. C'était un peu plus simple à produire. Et donc, voilà pourquoi on a allé vers ce format-là. Après, ce n'est pas un podcast au sens pur du terme, dans le sens où il n'y avait pas un flux RSS, ce n'était pas publié publiquement, etc. C'était plutôt une série... au sein de la plateforme, c'était un cours en ligne, au sein de la plateforme, une série qui se retrouvait plus ou moins à la même place dans chaque module de formation. À côté de ça, j'ai déjà aussi utilisé le podcast ou fait concevoir le podcast par des participants à une formation dans le cadre d'une approche par projet. Mais c'est encore un autre usage. Donc voilà un peu les manières dont je crée deux illustrations, la manière dont je crée des podcasts.
On parlait tantôt aussi, et on faisait la référence avec le livre, hein, en disant, OK, on a un podcast, et comme on aurait un peu un livre qu'on utilise, soit comme ressource complémentaire, ou alors un vrai matériel pédagogique à la base. Est-ce que ça, c'est envisageable de dire à un moment, on a un podcast qui est... Alors, de nouveau, hein, on stretch un peu le cadre et la définition qu'on s'est donné avec abonnement, flux RSS et autres, mais d'avoir ce contenu audio comme... référence, comme contenu ou ressource de référence d'une formation, Lio, t'en penses quoi ça?
On n'est pas habitué à ça. Hein. On en parlait un petit peu à l'épisode de la formation sans voir les apprenants, où quelque part on se focalisait sur un sens plutôt qu'un autre. Et ici, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop habitué à fonctionner avec l'exclusif de l'audio. Donc je trouve ça compliqué. Je trouve que c'est intéressant, mais c'est compliqué. Il y a un truc plus, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui fait un peu plus intimiste avec l'audio.
Et finalement, ouais. En fait, l'audio, c'est un objet qui est assez opaque. C'est un peu comme la vidéo. C'est un objet dans lequel on a plus de difficultés à naviguer. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a tant d'outils qui permettent de transcrire l'audio vers le texte pour pouvoir s'approprier le texte, etc. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi. En tout cas, moi, le fait de ne pas proposer un matériau pédagogique purement en audio, c'est parce que ça va être plus difficilement manipulable en termes d'ergonomie d'apprentissage pour les apprenants et les apprenantes. Donc, il y a vraiment un travail où c'est plus simple de s'approprier un texte que de s'approprier de l'audio.
Et en matière d'expérientiel, de transfert d'expérience ou d'interview, là, de fait, c'est pas mal, quoi.
Je voudrais revenir aussi, parce que je voulais partager aussi un peu une idée, et donc revenir un peu plus haut sur l'utilisation en fait, qu'on avait du podcast en formation ou à des fins d'apprentissage. On était assez alignés pour dire, OK, comme ressources complémentaires pour s'inspirer. Moi, il y avait quelque chose que j'avais en tête, et en préparant mon épisode, j'ai vu pas mal un chiffre aussi qui m'avait interpellé là-dessus. En disant 80% des auditeurs et auditrices hebdomadaires estiment que proposer des podcasts est un bon moyen de communiquer pour une marque. Et je faisais un peu le parallèle en disant, si une formation, on le voit un peu comme un produit et donc une marque, est-ce qu'utiliser un podcast en amont de la formation, alors ça peut être en aval aussi pour continuer à inspirer, faire vivre les choses, je pense que ça c'est une pratique, pourquoi pas aussi de la tester, continuer à vous inspirer, à voir des pratiques pour sur une thématique qu'on aurait vue en formation, continuer à l'ancrer à des intervalles réguliers. Mais aussi en amont, et ça fait lien avec l'épisode peut-être sur le marketing, communiquer un peu sur la formation, introduire le sujet, mais aussi sensibiliser à peut-être certaines choses. Vous en pensez quoi un peu de l'utilisation de ce podcast? Alors à des fins marketing peut-être, mais qui vont permettre de rendre une formation peut-être plus efficace parce que bien ciblé au début et parce que bien ancré, enfin ou mieux ancré en tout cas par après. Léo ?
Oui, je vais peut-être répondre en partie à côté de la plaque, mais sur cet aspect marketing, j'ai été impliqué dans la création d'un podcast qui avait cette fin quasi exclusive de ramener du lead, comme on dit, donc de créer un contenu suffisamment qualitatif pour qu'il participe à l'image de marque, pour qu'il implique éventuellement des partenaires, pour qu'il les expose, pour qu'il montre en fait notre familiarité avec certaines autres personnes qui sont des références dans le domaine. Et là, le but, c'était de ramener des personnes, c'est-à-dire d'avoir leurs informations. Et j'aime bien l'idée de faire de donner de la visibilité à des produits de formation, donc éventuellement à des formations elles-mêmes, de cette manière-là. Là où j'étais un petit peu bloqué, c'est justement par la barrière qui suivait. C'est-à-dire que pour avoir accès au podcast, on devait rentrer ces données. Et là, on dit oui, c'est normal parce que c'est sa finalité, mais non, ça déforce complètement le truc. On a une volonté de pouvoir accéder à tout ce qu'on veut quand on veut avec le podcast. Et ça, c'est... Non.
Mais je pense que là, c'était aussi... Et peut-être que je n'ai pas mis la nuance dans ce que je voulais faire passer comme message. Ici, le cas que tu expliques est vraiment à des fins de notoriété. Hein, tu vois, ramener des gens. Moi, je le voyais aussi à des fins d'apprentissage, dans le sens où, il faut la faire connaître. Hein, sa formation, par exemple, son trajet ou autre. Mais aussi, à sensibiliser, hein, les gens se rendent compte un peu, c'est l'incompétent inconscient, je me rends compte qu'il y a ça, et de dire, ce serait la bonne formation pour moi, ou pas. Hein, donc plus à avoir cette réflexion plus pédagogique qu'uniquement notoriété ou crédibilité qu'on pourrait avoir sur un sujet. Ouais.
Je ne suis pas familier avec cet usage-là, mais je crois que l'idée n'est pas mauvaise. Mais je n'ai pas rencontré ça.
Je lance ça, je n'ai aucune expérience. C'est une réflexion que je me faisais aussi. Et je me dis, beaucoup l'utilisent dans le marque, dans les objectifs de notoriété. Est-ce que c'est une piste de pouvoir l'utiliser à des fins vraiment purement pédagogique, quoi. Mais si je résume un peu pour atterrir par rapport à la discussion qu'on a ici, est-ce que à ce moment-là, si on reprend notre définition du podcast telle qu'on l'a décrite en début d'épisode, est-ce que en fait concevoir un podcast purement pédagogique a du sens ou pas?
Oui. Enfin, je vous pose presque la question pour de la formation informelle. Un de nos objectifs, du moins au départ vis-à-vis de ce podcast, c'était aussi de pouvoir inspirer d'autres personnes, de pouvoir amener des personnes à développer certaines compétences, à explorer certains sujets, donc à développer leurs compétences. Donc nous, quand on l'a fait, et aujourd'hui le fait qu'on enregistre ce podcast sur ce sujet-là, c'est aussi pour amener nos auditrices et auditeurs à développer des compétences par rapport au podcast, à se poser des questions, à l'envisager potentiellement dans leur pratique. Et donc, De ce point de vue-là, oui, on peut concevoir un podcast, à nouveau, peut-être moins pour la formation formelle, beaucoup plus pour l'informel.
À ce moment-là, donc, on le rattache quand même à certains objectifs pédagogiques pour l'utilisation de ce podcast-là. Ce n'est pas juste complémentaire, allez-y, inspirez-vous, et ça peut vous aider. On peut vraiment l'intégrer dans une scénarisation pédagogique.
Oui, se fixer des objectifs, ça c'est possible. D'ailleurs, nous, pour ce podcast, on a quand même certains objectifs pédagogiques, c'est aussi pour ça que tous les podcasts qu'on produit se ressemblent, mais ont un même niveau. On a certains objectifs avec chacun de ces podcasts. Par contre, dans une scénarisation pédagogique, ça me semble quand même plus complexe, si on reprend à nouveau la définition puriste, parce que vu que le podcast va être distribué aux apprenants, qu'ils ont la liberté de l'écouter ou pas, qu'il y a très peu de possibilités d'interaction sur les plateformes de diffusion de podcasts, etc. Vraiment, l'intégrer dans une réelle scénarisation pédagogique, c'est plus complexe. Et donc là, on doit mettre des dispositifs autour en plus du podcast.
Une réflexion que j'ai aussi, je voulais la partager avec vous pour un peu avoir votre avis, c'est que moi j'ai l'impression que le podcast, c'est un peu trendy, hein, tout le monde en parle, et bien on voit les chiffres aussi, ça explose, mais évidemment pas dans un contexte de formation, comme on disait, principalement dans un contexte de divertissement. Mais que c'est un peu, bon, avant, on devait trouver un média, ben on fait une petite vidéo, on veut faire passer un message, ben on fait une petite vidéo, on la diffuse, hein, on en avait parlé dans notre épisode sur la vidéo. Et là maintenant, on fait un podcast parce que tout le monde écoute des podcasts maintenant, donc c'est facile. Mais en fait, on consomme pas du tout, et on parlait même encore de livres aussi, on consomme pas du tout de la même manière un livre, une vidéo et encore moins un podcast. Et je trouve qu'on fait souvent le raccourci, avant on faisait une petite vidéo. Parce que tout le monde faisait la vidéo et maintenant tout le monde écoute des podcasts, donc on fait un podcast et on va faire. Mais c'est pas du tout la même manière dont on le consomme. Et je voyais aussi un chiffre, 15% des auditrices et des auditeurs se concentrent uniquement sur le podcast qu'ils écoutent. Le reste, ils font d'autres choses en même temps et vous en parlez aussi, hein. Internet, cuisine, se promener, alors qu'on a dit justement pour la vidéo où il y a d'autres sens. Donc rien que la manière dont c'est consommé aussi. On sait pas faire la même chose. Et donc, j'ai des fois l'impression peur, et moi-même aussi, ça m'est arrivé de dire, entre guillemets, on n'a qu'à faire un podcast. Et en fait, je me dis, mais non, parce que la manière dont il est consommé est hyper importante à tenir en compte dans cette scénarisation pédagogique.
Effectivement, et c'est là où je distinguais à nouveau formel, informel, et que ça entre en conflit. Les pratiques de consommation aujourd'hui, c'est soit de ne pas consommer des podcasts, soit majoritairement de faire autre chose, comme tu le disais, pendant les podcasts, ce qui va à l'encontre d'une manière dont on peut apprendre, surtout dans un contexte formel. Alors qu'en informel, pour continuer à développer ses compétences sur un sujet, en apprendre plus, s'inspirer, avoir des idées, des insights sur certaines thématiques, être challengé dans ses préconceptions, l'outil est intéressant, mais on n'est vraiment pas dans un outil pédagogique en tant que tel dans le cadre d'une formation.
Moi, j'ai l'impression que le podcast, si on veut vraiment qu'il y ait des objectifs de formation, d'apprentissage et de développement de compétences, ça repose beaucoup sur une espèce d'auto-discipline ou de l'auto-apprentissage aussi. Hein, et donc, ça rejoint évidemment la définition d'informel, hein, mais de pouvoir dire, OK, je le consomme et de moi-même, je dois être capable d'en retirer les éléments, les mettre en place, de voir qu'est-ce qui est pour moi pratique. Et donc, un accompagnement pédagogique dans une formation un peu formelle, c'est évidemment plus compliqué, quoi. Mais Léo, tu voulais réagir par rapport à ça?
Sur le fait qu'on se lance un petit peu plus facilement qu'avant dans la réalisation de podcasts, c'est aussi que c'est de plus en plus simple pour le faire, hein. C'est la techniques, les outils techniques pour le faire sont, pour faire un podcast basique, sont assez élémentaires.
Mais c'est pour ça que je faisais le lien avec la vidéo, où en fait, à un moment, c'était facile de produire la vidéo, et donc tout le monde faisait de la vidéo, et maintenant, ouais, c'est facile à produire, et tout le monde en écoute, donc c'est la porte ouverte, allez, go, on y va, quoi, et c'est un peu le piège, j'ai l'impression.
Autant, je trouve que c'est bien, parce que ça donne à chacun la possibilité de s'exprimer, et là, je parle du podcast en général, peut-être hors formation, et ça donne une grande visibilité. Et le problème, je trouve, c'est que ça donne la même visibilité, vu qu'ils sont, finalement, on a tous accès au catalogue, on peut tous les publier sur, dans le catalogue de Apple Podcast ou Spotify, ou, etc. Et il y a beaucoup de bruit, quand même. Enfin, tout n'est pas... de bruit sans jeu de mots, tout n'est pas qualitativement à la même hauteur. Et du coup, on en a trop, ça crée le catalogue, il est plus lisible. Et donc, je trouve qu'il vaut mieux y réfléchir à deux fois et pas se dire, bah, on va faire un podcast, on va faire finalement, on va pas spécialement faire un podcast. J'ai l'impression que quand on pense podcast, on pense pas au terme. Donc on se lance, on pense qu'il y aura une série qui est un peu sans fin, mais et pas un truc, oh, bah, je vais faire 4 épisodes, un peu comme une série Netflix ou autre.
Et on parlait de qualité aussi et que c'est entre guillemets facile à réaliser. En tout cas, c'est accessible dans la réalisation. Maintenant, pour avoir de la qualité, et je pense encore plus un podcast où on a que l'audio, la qualité est encore plus importante, j'ai l'impression, qu'une vidéo. Même si une vidéo, c'est important aussi d'avoir bonne qualité son, mais on peut encore se rattraper par l'image où l'un peut compléter l'autre. L'audio, si le son n'est pas waouh, c'est compliqué. Hein, et donc, je pense qu'à réaliser, c'est abordable et accessible, les outils de réalisation, mais vraiment avoir quelque chose de qualitatif, la barre doit encore être mise plus haute que pour d'autres médias.
Et c'est là que je trouve que, et c'est un peu hors sujet, mais ça me permet de le placer, les évaluations ne sont pas top top. Autant on vous demande de donner des étoiles, autant tout le monde demande de donner des étoiles pour qu'on soit bien placé dans le catalogue, autant on ne sait pas sur quoi elles portent ces étoiles. Donc on pourrait être qualitativement très bon, mais techniquement très mauvais et désagréable à écouter. Et il n'y a pas ces filtres-là
Oui, et dans notre cas, on ne sait pas si on vise plutôt Lio, Nico ou moi. Enfin, j'ai mon idée, mais voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Mais tu parlais justement des plateformes et ça permet de faire un peu la transition aussi et pour voir quels sont un peu les canaux, les plateformes de diffusion ou est-ce qu'il y en a que vous privilégiez dans la pratique, vous allez rechercher, vous conseillez, en sachant, petit chiffre aussi à l'appui, intéressant, ce petit insight là aussi, que 44,1% des podcasts sont consommés via Apple Podcasts, avec les arguments de la gratuité, facilité d'accès et l'intuitivité aussi, et 23,7% sur Spotify. Et donc, ça reste évidemment les deux grandes plateformes majeures, mais on voit qu'Apple Podcasts est encore une longueur d'avance. Alors, pour combien de temps? Parce que je pense que Spotify commence vraiment maintenant à s'y mettre sur le podcast. Mais donc, ça amène à la question, voilà, quels sont un peu les canaux de communication, des plateformes de diffusion que vous privilégiez ou que vous privilégieriez dans les pratiques.
Alors, peut-être un petit point technique pour nos auditrices et auditeurs, c'est que souvent, on ne va pas directement publier sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Les podcasts ne se trouvent pas là, ils sont publiés chez un hébergeur et c'est l'hébergeur qui va lui-même propulser le podcast sur différentes plateformes. Donc, en tant que producteur de podcast, souvent le choix presque ne se pose pas parce que c'est assez simple de publier sur les différentes plateformes. Par contre, l'un des gros problèmes du podcast depuis toujours, ça a été, je ne sais pas si le terme est français, mais sa découvrabilité, peut-être. Enfin, la capacité à pouvoir le découvrir en tout cas. C'est-à-dire qu'un podcast, vous allez aller vers ce podcast si on vous en a parlé. C'est très difficile, contrairement à YouTube par exemple, où sur YouTube, on a beaucoup de suggestions, de propositions en fonction de ce qu'on a regardé, etc. Dans les podcasts, sur la plupart des plateformes avant Spotify, ce n'était pas le cas. Sur Apple Podcasts, on vous proposait que très rarement, au mieux, vous aviez les classements de certaines catégories, mais vous n'aviez pas des suggestions de podcasts. Aujourd'hui, avec Spotify, on vous propose des podcasts similaires à ce que vous écoutez. Et donc, de ce point de vue-là, en tant qu'auditeur ou auditrice, ça peut être intéressant d'aller vers cette plateforme-là. Son inconvénient, effectivement, par rapport à Apple Podcasts, c'est que sur cette plateforme, soit c'est payant, soit il y a de la publicité qui vient un peu entacher vos podcasts quand vous passez d'un podcast à un autre. Mais sinon, c'est
à mon sens, la meilleure plateforme aujourd'hui. Peut-être pas pour écouter les podcasts. Moi, j'ai un outil qui est propre. Mais par contre, pour en découvrir de nouveau, c'est plutôt pas mal par le moteur de recherche et par les suggestions.
Voilà. Et est-ce que tu peux nous donner le nom de cet outil, Nico ? Peut-être que ça peut intéresser certains...
Là, c'est plutôt un lecteur de podcast qui s'appelle Castro et qui va permettre d'avoir plein de petites fonctionnalités, mais surtout une boîte de réception. Donc, ça permet d'avoir d'une part la liste des derniers épisodes qui ont été publiés. Et dans cette liste-là, on va pouvoir ajouter les podcasts qu'on a envie d'écouter issus de cette liste dans notre boîte de réception, en quelque sorte, à écouter. Donc, ça permet de ne pas être obligé de tout télécharger, de ne pas checker les podcasts qui sont sortis. On a, d'une part, la liste vraiment de tous les nouveaux podcasts. Et là-dedans, on dit, bah, ça, j'aurais envie de l'écouter un moment, etc. C'est l'une des principales fonctionnalités qui me fait utiliser cet outil-là.
Top, merci. On mettra peut-être le lien aussi dans la description. Hein, comme ça, ça permettra à ceux que ça intéresse d'aller chercher plus d'infos. Si ça vous dit, on atterrit un peu avec notre question finale. Tout le monde la connaît, hein, cette question finale. C'est est-ce que finalement le podcast en formation possible ou pas ? Et de manière très élégante par rapport à vous, messieurs, je vais commencer avec ma réponse. Hein, en disant pour moi, c'est effectivement tout à fait possible. Parce que, comme on l'a expliqué, et c'est ma vision aussi des choses, il y a une consommation très particulière du podcast. Et donc, vraiment, à des fins de formation très cadrées, de développement, c'est quand même très, très limité, les effets que ça peut avoir. Moi, je le vois plus, effectivement, dans de l'inspiration, de l'auto-apprentissage, vraiment dans des formations formelles, hein, pour reprendre tes propos, Nico, et ton cadrage. Je pense que c'est, on peut tout à fait s'en passer parce qu'il y a une consommation très très particulière du podcast, difficilement intégrable comme ressource pédagogique propre et pure et dure. Lio, qu'est-ce que toi t'en penses ?
Oh, c'est très proche. Pour moi, c'est pas simple de l'intégrer à de la scénarisation. Et je suis pas sûr même que ce soit la vocation du podcast de s'y retrouver. Donc, il y a certainement, et Nicole rappelait, il y a une intention, il y a une intention didactique. On essaie de transmettre d'une certaine manière, qu'il soit appréhendable. Mais je sais pas si on sait vraiment y mettre des objectifs pédagogiques dans nos épisodes, dans le fil dans une série d'épisodes. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment fait pour. Donc, possible en formation, oui, oui, mais non. Peut-on former sans podcast ? Oui, quoi.
Oui, clairement. J'allais reprendre la question. La question originelle, c'est quand même, peut-on former sans podcast ?
Effectivement.
Et donc, là, en se disant, peut-on former sans podcast ? Oui, et je dirais même, essayer de former sans podcast, c'est un outil qui a une telle complexité. Et on l'a dit, de scénarisation pédagogique, d'ancrage pour les participants, ça peut être assez casse-gueule, on peut le dire, pour un formateur ou une formatrice qui souhaite utiliser cet outil-là. Par contre, en tant qu'apprenant, je pense que c'est une ressource hyper intéressante pour apprendre, pour développer des compétences, il y a énormément de choses. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe. Ne pas pousser les gens à faire des podcasts, mais en même temps dire aux apprenants que c'est une super ressource. Il y a un moment où si les personnes arrêtent de créer des podcasts, on n'aura plus rien à écouter, donc à voir. Mais en tout cas, peut-on former son podcast ? Oui, absolument.
Oui, donc si on reprend la question initiale, hein, qu'un certain Jérôme a très mal posée au départ, peut-on former son podcast ? On a tous les trois d'accord pour dire oui, c'est possible, étant donné un peu les spécificités de ce média-là. On est tous d'accord, et c'est bien pour clôturer ici la saison et partir en vacances en bon terme, hein, messieurs. Donc cet épisode-là clôturait la deuxième saison, hein, donc 31e épisode, deuxième saison après un an et demi d'existence. Mais bien évidemment, je n'allais pas l'oublier, vous pensez bien, hein, et vous attendez ça aussi. Notre petite recommandation avant de clôturer cet épisode-là. Et je commence avec Lionel, ta recommandation à nos auditrices et nos auditeurs.
Ce sera un article en anglais, pas tout neuf, d'un web développeur, donc c'est un peu particulier, mais qui l'a rédigé sur un sujet qui occupe pas mal d'entre nous, c'est l'estimation de la charge d'un projet. Donc son article, son nom déjà c'est, du bonhomme, c'est Dave Stewart. Et c'est un Britannique. Et l'article, c'est « The work is never just the work ». C'est-à-dire que, en gros, quand on évalue la charge d'un, et il le montre de manière très visuelle, quand on évalue la charge d'un projet, quand on estime ses coûts, par exemple, ou ses besoins en termes de ressources, on est souvent à côté de la plaque. Et souvent, on sous-évalue. Et finalement, une bonne, pas si mauvaise manière de faire, c'est de tripler ce qu'on avait évalué à la base comme la charge de travail. Et lui, dans son article, le montre de manière très visuelle. C'est parce que c'est pas simplement parce que c'est bien de tripler, parce qu'on pourra faire autre chose de ces ressources-là, mais c'est simplement que autour de ce qu'on appelle le travail, il y a toute une partie de travail autour du travail. Il y a le travail pour se mettre au travail, le travail avant le travail, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, l'acquisition, la préparation. Il y a ce qui est entre plusieurs épisodes de travail, ce sont les différentes itérations. C'est le travail en dessous du travail, c'est les changements, ce qu'on avait oublié, les nice to have, ce genre de choses-là. Et finalement, on arrive à des estimations qui sont bien souvent sous-évaluées. Et je vous conseille d'aller le voir au moins pour la manière dont c'est figuré, parce que c'est très joli, très efficace visuellement. Et même sans lire, même si vous scrollez simplement, vous comprenez bien l'idée. Et je trouve que c'est tout à fait réussi.
Top, oui, effectivement, j'ai été voir et j'ai le réflexe d'abord d'un peu scroller pour voir quoi ça représente. Et on est attiré par le visuel qui est effectivement très pédagogique en dehors du contenu uniquement.
Et ça me paraît très juste. Hein.
Exact. Bah, c'est que pour ce podcast, on ne fait pas qu'enregistrer ce podcast. Hein. Il y a des choses effectivement aussi avant, après et en dehors de tout ça. Top, merci beaucoup. Et comme d'hab, toutes les recos évidemment dans la description de l'épisode. Monsieur Nicolas, votre recommandation de l'épisode ?
Oui, ben, j'avais pas envie de penser au travail à la veille des vacances.
Je pensais que t'allais dire que j'avais pas du tout envie de faire de recos, donc tant pis pour vous, ciao.
Non, je voulais plutôt recommander un petit ouvrage, enfin, quand même assez conséquent, mais qui se lit assez rapidement. C'est le premier roman de Fanny Ruet, qui est intitulé « Bien sûr que les poissons ont froid ». Fanny Ruet, c'est une chroniqueuse, c'est aussi une podcasteuse, un podcast très intéressant qui s'appelle « Les gens qui doutent », si je ne me trompe pas, et une humoriste belge. Elle tient une chronique humoristique dans l'émission « La bande originale », présentée par Nagui, c'est toujours le cas. Et puis, elle a un chouette spectacle qui s'appelle « Bon anniversaire Jean ». Je ne sais pas si ça tourne encore, on mettra
non,
potentiellement...
Non, j'étais à la dernière.
Ah ouais.
Quelques mois, oui.
J'ai vu ce spectacle il y a près de 2 ans et je sais qu'il a tourné assez longtemps. Mais bref, ici, c'est son ouvrage, je voulais vous lire. Bah, c'est la quatrième de couverture, tu en parlais tout à l'heure, Jérôme, l'importance de la quatrième de couverture. Et ici, elle indique « Vous tenez entre les mains l'irrésistible roman de Fanny Ruet. Il parle de dépression, de rencontres amoureuses sur les réseaux sociaux, de crise existentielle et d'alcoolisme mondain. Il nous embarque dans une intrigue à couper le souffle et évidemment, la fin va vous surprendre. C'est un livre truffé de blagues. Contrairement à cette présentation, son éditeur ayant moins d'humour que son autrice, vous allez verser quelques larmes, mais surtout rire, beaucoup rire, et c'est rare en littérature, non ?» Voilà, donc un peu... Ça donne un peu des ingrédients, mais ça vous montre aussi le style, parce que le style est assez intéressant et vraiment assez jeune, assez frais dans l'écriture de cet ouvrage. Il y a aussi pas mal de références, si vous êtes trentenaire, les rencontres sur MSN, les Skyblog, pas mal de références qui vous parleront. Donc voilà, un très chouette roman. Je suis vraiment quasi à la fin, mais je peux déjà... que vous le recommandez, il est super, donc voilà. Petit roman pour l'été.
Quand les Français qui viennent chercher des humoristes belges, hein, décidément, il y en a toute toute une série, soyons un peu chauvins aussi de temps en temps. Et MSN, effectivement, pour des trentenaires comme moi, c'est comme toute une partie de ma jeunesse, hein, avec Caramel, avec tout ça, c'est quand même une petite Madeleine de Proust, hein, finalement. Top, merci beaucoup. Pour ma part, je vais être assez original, je vais faire une petite recommandation d'un outil AI. Alors, pas pour l'outil en tant que tel, même si je vous invite à le tester, mais surtout parce qu'en fait, je ne m'étais pas encore imaginé que l'intelligence artificielle pouvait vraiment aussi faire ça. Et aider là-dedans. C'est un outil qui s'appelle Knowledge, donc Knowledge.ai. Et en fait, c'est un outil sur base d'un document, soit PDF, soit un texte, soit une vidéo. Il vous crée un petit module e-learning. Et donc, je l'ai testé avec différentes choses. Et c'est assez dingue, en fait, la vitesse. Hein, donc, j'ai rentré un lien YouTube, par exemple, ou un document PDF d'une vingtaine de pages, et j'ai chronométré entre 5 et 6 minutes. Il y avait un module e-learning qui sortait avec derrière des flashcards, des quiz, un résumé. Derrière, c'est H5P qui tourne. Et d'ailleurs, H5P a lancé, suite à ça, Nico t'en parlait cette semaine, a lancé son propre aussi création de contenu sur base de documents, vidéos ou autres. Alors évidemment, je trouve intéressant cet outil-là et je mets évidemment toutes les précautions qu'il faut en disant il ne faut pas dire je mets une vidéo, je prends mon module, il est nickel, je le prends, je le diffuse à mes apprenants. C'est pas ça mon message. Mon message, c'est quelqu'un à la fois qui n'est pas inspiré ou qui n'a jamais fait ça, qui est un expert contenu. Ben, ok, prenez votre contenu, voyez ce que ça donne, ce qui est possible et ça peut être service de base d'inspiration, de retravail et autres en un temps très court. Donc voilà, c'est assez bluffant et on n'est qu'au début, comme je dis aussi, donc ça ouvre évidemment plein de choses. Donc voilà, knowledge.ai, allez tester, voilà, ne prenez pas ça, ça reste évidemment un outil, donc une aide à atteindre quelque chose, mais c'est quand même assez bluffant ce qu'il y a moyen de faire. Et quand je mettais un document de 20 pages, ben, en 5-6 minutes, j'avais derrière des flashcards avec vraiment des définitions de concepts qu'il avait été recherché dans le texte, qui était correct et qu'il avait identifié lui-même comme une notion importante. Donc ça c'est quand même assez puissant. On arrive enfin à la fin de cet épisode-là, de cet épisode sur le podcast, cet épisode un peu introspectif sur le podcast, sans le podcast. Et donc comme d'habitude, on vous invite à partager cet épisode avec deux personnes qui écoute trop, enfin une personne qui écoute trop de podcasts et une personne qui n'écoute pas assez de podcasts, et donc invitez-la à écouter ce podcast-là en priorité ou à commencer par celui-là également. Je vous rappelle de noter les deux dates dans vos agendas, le 21 juin et le 19 septembre, hein, pour les anniversaires de Léo et Nico.
Et le tien, balance le tien quand même.
Alors moi, c'était il n'y a pas longtemps non plus, hein, 4 juin. Et sinon, on vous prépare aussi dans les cartons un ou deux épisodes spéciaux même, hein, pour cet été. Donc voilà, ça va. Les enregistrements sont bientôt prévus, donc ça va sortir cet été. Et donc voilà. Nico, Léo, un petit mot à nos auditrices et auditeurs avant les vacances, avant les congés d'été.
Non, mais leur dire de profiter un peu de cet été, de sortir un peu du travail. Vous avez vu que moi, tout était en dehors du travail. Et vous verrez également, peut-être ingrédient qui fait le lien avec ton teasing, que nos épisodes seront en lien toujours avec la formation, mais peut-être un peu différents par rapport à nos épisodes habituels, peut-être des épisodes plus adaptés à cet été. Et donc, si vous voyez un nouvel épisode de C'est quand la pause arriver sur votre plateforme d'écoute préférée, ne vous dites pas que ça va être un long épisode comme d'habitude, etc. Vous allez avoir quelques surprises. Donc, on vous conseille vraiment d'écouter ces épisodes d'été. Et surtout, profitez de l'été.
Et Bio, puis, on vous remercie de manière générale de nous accueillir toujours aussi nombreux dans vos oreilles. C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir vous avoir autour de nous pour vous remercier et avoir cette interaction-là que des stars de la chanson pourraient avoir quand ils donnent un concert. Faudrait qu'on pense peut-être à des lives. Hein.
Macumba, danse.
En boucle, je m'entends ça.
Non, mais donc sur la route des vacances, au bord de la piscine, brancher un podcast, écouter. Et parce que j'ai lu aussi que 63% des parents écoutaient les podcasts avec leurs enfants. Donc voilà, s'ils sont trop turbulents, que vous les inspirez ou autre, le podcast peut aussi être un bon moyen d'occupation.
Et en un épisode, vous aurez certainement parcouru au moins 120 km.
voilà. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous, merci Léo, merci Nico, et ben, merci à très vite, et bon été à tout le monde.
Ouais, à bientôt. Été, au revoir, à bientôt.
Salut.